Bonsoir à tous. Nous allons commencer cet épisode pour les collisions d'amas, les fusions de structures. On va voir comment peuvent se former ce genre de structures qu'on appelle la brosse à dents, comme vous le voyez. Alors, les grandes lignes de l'exposé, ce sera d'expliquer comment se forment ces structures radio. Donc, vous voyez une illustration à côté ici. Ce sont des structures qu'on observe en radioastronomie, donc dans les longueurs d'onde centimétriques métriques, en basse fréquence, et qui sont de très grande taille. Ici, vous avez une émission diffuse qu'on appelle radio-halo, c'est-à-dire un halo, en fait, c'est vraiment diffus, qui coupe tout l'amas. Un amas, ça a une dimension d'un mégaparsec. Donc, c'est aussi grand que l'émission en rayons X qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et puis, au bord des amas, on voit ces structures qu'on appelle reliques radio, on va voir pourquoi, qui sont sans doute des ondes de choc, et on pense que ces ondes de choc accélèrent des électrons lors de la collision de deux sous-amas en un amas global. Alors ces phénomènes-là sont très intéressants, sont des chocs, des fronts froids qu'on va détailler dans cet exposé, car en effet, on va pouvoir avoir beaucoup d'informations en observant ces structures, non seulement sur le champ magnétique des amas, mais aussi sur la conduction du gaz chaud, la viscosité, enfin toute la physique du gaz chaud, et puis on peut modéliser ces collisions, savoir quelle est la vitesse de collision, le nombre de Mach, la masse, le rapport de masse des amas qui ont été en collision. Donc déjà, pour faire un petit peu la description de ce qu'on observe en radioastronomie, donc en rayonnement centimétrique et jusqu'à métrique, vous avez ici un amas typique. En couleur, c'est l'émission que l'on voit en rayons X, qu'on a détaillé beaucoup dans les exposés passés. Ici, on a une structure à deux sous-amas, justement, les deux amas rentrent en collision. Et vous voyez que les contours sont l'émission radio synchrotron, des électrons qui spiralent dans un champ magnétique. L'émission synchrotron est très polarisée en général. Ici, elle est polarisée à au moins 30%, mais peut-être 50% ou plus. Et on pense que ces structures radio sont dues. Alors, ça fait vraiment un mégaparsec, c'est très géant, c'est beaucoup plus grand que, par exemple, les jets d'un noyau actif, que j'appelle AGN, Active Galactic Nuclei, qui font des jets radio, donc c'est beaucoup plus grand que ça. Les jets radio, c'est de l'ordre de 100 kiloparsecs, ici c'est 1 mégaparsec. Et on pense que, sans doute, il y a des électrons relativistes qui sont des restes de jets radio, qui vont être réaccélérés dans le choc, et c'est l'origine de ces reliques. Donc voici déjà la structure globale. Alors, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait beaucoup de fusions d'amas de galaxies, puisqu'on vit dans un univers lambda CDM, le modèle standard de matière noire froide, qui est un modèle hiérarchique. Donc, on l'a vu déjà pour les galaxies, on forme des petits halos au départ, qui sont instables gravitationnellement, puis qui ensuite fusionnent, des petits halos fusionnent en plus gros halos, ainsi de suite. Pour les amas, c'est pareil. On a des petits groupes de galaxies qui se forment au début, puis les plus grosses structures se découpent de l'expansion. Les amas se forment à z égale 2, ils s'en forment encore aujourd'hui, de plus en plus gros. L'amas de coma, par exemple, est fait de deux structures qui sont en fusion aujourd'hui. Donc on s'attend à toutes ces fusions, les amas assemblent leur masse comme cela. Et voici une simulation numérique, par exemple, en 2001 de Ricker et Sarrazin, qui montrait, alors ici en couleur, il s'agit de la température. Donc vous voyez que le rouge, c'est la température la plus forte. On a un choc dans le choc. Alors le choc, c'est quoi? C'est le choc d'un plasma thermique. Le plasma thermique, c'est le gaz chaud qui émet en rayons X et qui, on l'a vu, contient la plupart des baryons, la plupart des atomes donc ionisés ici, le plasma, parce que dans les amas riches, la plupart des baryons se retrouvent dans le gaz chaud et non pas dans les galaxies. Enfin, il y en a au moins 10 fois plus dans le gaz chaud que dans les galaxies. Donc ces deux gaz chauds dans les deux amas qui sont en collision vont rentrer en collision et vont avoir des chocs. C'est complètement contraire à ce qui se passe dans la matière noire, qu'il n'y a aucun choc, aucune collision. Ici, on a des chocs parce qu'il s'agit d'un gaz chaud et qui, lorsqu'il y a un choc, la température augmente, et est chauffé. Donc on voit ici un choc. Vous voyez les flèches, là, c'est la vitesse du gaz chaud. Et on voit bien qu'il y a une vitesse qui arrive ici, qui arrive ici. Donc on a aussi un front de vitesse. Donc on a vraiment un choc. On va le voir parce qu'il y a parfois des fonds froids qui sont différents des chocs. Donc ici, on s'attend à voir ce qu'on voit ici, c'est-à-dire en couleur le plasma thermique qui émet en rayons X, et puis au bord, on a les contours de l'émission radio. Alors quand je dis plasma thermique et non thermique, qu'est-ce que ça veut dire? Le plasma thermique, c'est le gaz chaud qui est en équilibre avec la température du viriel de l'amas. On a vu que c'était 100 millions de degrés, ou quelque chose qui va entre 2 kiloélectronvolts ou 10 kiloélectronvolts au plus. Et vous voyez que le kiloélectronvolt, c'est bien plus petit que l'énergie de masse de l'électron, qui fait 0,5 mégaélectronvolt, hein, c'est des mètres. Donc les électrons qui émettent ici ne sont pas relativistes. Ils sont juste à l'équilibre thermique, ils sont quand même énergétiques, mais ils ne sont pas relativistes. Le plasma qui émet en radio, lui, il est relativiste. On sait que ce sont des électrons qui ne sont pas à aucun équilibre thermique, mais qui sont accélérés par les noyaux actifs, les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies et qui émettent des jets radio, donc des électrons très relativistes. Donc c'est l'énergie est complètement différente. Alors, le premier halo radio qui ont été vus et les reliques, c'était la Matkoma. Alors on revient toujours à la Matkoma. Pourquoi ? Parce que c'est un des plus proches. Évidemment, il y a Virgo qui est encore plus proche, 18 mégaparsecs de nous. Mais Virgo est beaucoup moins massif et présente moins. On le verra dans la suite, on a quand même vu des choses dans Virgo. Mais le plus massif qui est le plus proche, c'est Coma à 100 mégaparsecs de nous. Les autres dont on va parler dans cet exposé sont encore plus loin. Donc c'est plus difficile de voir. Mais là, on voit, c'était déjà en 1993, il y a 25 ans, où on voyait en orange l'émission en X de Rosat, le satellite qui précédait Chandra. Et on voit qu'en effet, il y a deux parties, deux sous-groupes dans Coma qui sont en train de fusionner. Et à la même échelle, vous voyez l'émission radio à 90 cm, donc presque métrique. On a un halo radio qui est à peu près la même taille que le rayon X ici. Et au bord de l'amas, on a une relique radio, alors qui n'est pas encore très très fine, qui n'est pas encore assez. Alors, à l'époque-là, c'était quand même assez rare. On en avait 10% de halo dans l'amas X. Plus lorsque l'amas était plus gros, c'est-à-dire que la luminosité X plus grande. Aujourd'hui, on est plus sensible, on a des radiotélescopes LOFAR de basse fréquence, et on en voit plus, peut-être la moitié, qui ont de ces émissions radio. Alors voici un exemple où on a des formes beaucoup plus caractéristiques. Donc Abel 2744, on voit, alors ici c'est l'image radio, rayons X et puis les galaxies en optique. Vous voyez qu'en X, on a une taille à peu près la même que celle du halo radio. Le halo radio est très diffus, et ce qui le distingue de la relique ici, qui est vraiment la forme d'un choc, qui est quelque chose qui est un petit peu incurvé en général, qui fait de l'ordre de 1 mégaparsec de taille. Ce que vous voyez ici, ce sont des petits AGN, alors là simplement des jets radio habituels, où on a une galaxie au centre et puis deux lobes radio. C'est peut-être d'avant-plan ou d'après-plan ou appartenant au lama, mais ce qui est intéressant, ce sont les longues structures qui font une bonne partie du rayon de lama et les galaxies qui ne sont pas très remarquables, mais il faut avoir le redshift des galaxies pour savoir où sont celles qui appartiennent à lama. Donc vous voyez un petit peu le... Alors il y a évidemment des chocs qui sont encore plus spectaculaires, comme celui-ci qui est appelé le saucisson ou sausage en anglais. Ici, toute la couleur, c'est l'émission radio obtenue avec ce qu'on appelle Giant Meter Radio Telescope. C'est un télescope en Inde qui observe dans les longueurs d'onde métriques. Ici, c'est 50 cm, un demi-mètre. Et on a ici un choc qui a une taille 2 mégaparsec de long avec une largeur 50 kiloparsec, donc qui est très très mince. Et on peut en déduire en faisant une simulation, on va le voir dans les slides suivantes. La vitesse de la collision des deux sous-amas, qui est plutôt Mach 3. Alors Mach 3, ça veut dire elle est supersonique par rapport à la vitesse du son dans le plasma chaud. La collision a eu lieu il y a moins d'un milliard d'années. Et le champ magnétique va être de 5 microgauss. On va voir ce que c'est relativement fort par rapport même au milieu interstellaire où on a plutôt du champ de l'ordre de microgauss. Le rapport du masse entre les deux amas serait plutôt un facteur 2. Alors quand on regarde de près à plusieurs longueurs d'onde, cette émission synchrotron qu'on observe donc en radio, elle est en général à une loi de puissance, une loi de puissance avec une pente de moins alpha, donc ça veut dire que les plus hautes fréquences ont moins d'émissions qu'à basse fréquence, donc on a intérêt à aller à basse fréquence pour être plus sensible. Et puis le alpha ici, qu'on prend positif, mais enfin il faut bien savoir que c'était moins alpha, il est plus fort, donc le plus pentu, lorsque c'est très bleu ici et vert cru, c'est les pentes plus faibles. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que lorsque la population d'électrons vieillit, les électrons les plus énergiques perdent de l'énergie et l'émission va avoir une pente plus forte. Donc ça veut dire que le choc, il est jeune dans la partie convexe ici. Donc ça, c'est le choc qui avance. Et puis ensuite, ici, on a des électrons plus vieux qui ont déjà perdu leur énergie et qui sont plutôt en retrait. Et on voit aussi la grande polarisation, ici 50%. et on peut regarder l'orientation des champs électriques dans cette polarisation. Elle est perpendiculaire à la saucisse, là, ici. Et ce qui veut dire que le champ B, qui est perpendiculaire au champ électrique, est parallèle au choc, ce qui est aussi attendu parce que dans le choc, vous allez avoir une compression et un étirement, un cisaillement qui va rendre le champ B parallèle. Alors, ce rayonnement synchrotron, je reviens un petit peu dessus, mais que vous sachiez un peu ce que c'est, mais on va pouvoir en déduire beaucoup de choses. Donc, quelle est sa dépendance en champ magnétique, en énergie de l'électron, etc. Alors, ce rayonnement donc des particules chargées qui spiralent dans un champ magnétique, vous voyez là, il est connu depuis longtemps, enfin, du moins, quand on remonte un peu le temps, il a été décrit la première fois en 1912, et surtout, il a été beaucoup étudié après 1945, car on a commencé à avoir des accélérateurs, et ce nom cyclotron-synchrotron, c'était justement le nom des accélérateurs dans lesquels on accélérait les particules qui émettaient ce rayonnement. Alors, on appelle cyclotron lorsque les électrons, les particules ne sont pas relativistes, et puis synchrotron, c'est lorsqu'on a des électrons relativistes. On va voir que c'est très différent. Dans les deux cas, la puissance émise est proportionnelle au carré du champ magnétique, et comme vous le savez, la force qui s'exerce sur une charge E, mettons un électron, avec une vitesse V, c'est le produit vectoriel de la vitesse V et du champ B. Je n'ai pas mis le produit vectoriel. Ça veut dire que la force est perpendiculaire à la vitesse. Il n'y a pas de travail, donc le champ B ne fait que faire tourner l'électron, mais ne lui donne pas de l'énergie. Donc, pour accélérer dans ces cyclotrons, lorsqu'on voulait accélérer les particules, il fallait qu'il y ait un champ électrique. Et donc, on prenait un champ magnétique pour refaire venir la particule dans le champ électrique et l'accélérer à chaque tour. Alors, quelle est la vitesse angulaire, la période de rotation, si on sait que oméga et la période de rotation T sont inverses, vous voyez qu'on peut éliminer V ici, avoir oméga qui est juste égal à EB sur M, donc c'est facile à voir. Donc ça, c'est la fréquence de l'armor, la fréquence du cycle. On tourne ici, ça fait un cycle. Et on peut savoir que pour un Gauss, par exemple, ça vous donne une fréquence qui va rayonner à chaque tour, donc on a 2,8 MHz. Et le rayon de régiration, évidemment, V égale oméga R, donc vous avez V sur oméga. Donc le rayon, en fait, plus la particule va avoir de l'énergie, c'est-à-dire la vitesse va augmenter dans son accélération, plus le rayon va être grand. Ce qui fait que lorsqu'on a voulu accélérer un peu plus les particules, je pense que j'ai une petite illustration ici des accélérateurs. Vous savez que le plus grand accélérateur aujourd'hui, c'est au CERN, le LHC, qui fait 27 km. Au début, on avait des petits cyclotrons. Maintenant, on a le plus grand 27 km. Donc, si je reviens à ceci, il faut synchroniser les particules. Si on lui donne plus d'énergie et le rayon va être de plus en plus grand, on ne va pas pouvoir suivre les particules dans leur cycle. Donc, on va les synchroniser. C'est d'où vient ce nom de synchrotron, c'est qu'on synchronise les particules pour qu'elles aient toujours le même rayon lorsqu'on augmente leur énergie. Donc, lorsqu'on a une énergie d'électrons relativiste, cette fois-ci, on a le facteur gamma de Lorentz, qui est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc, l'énergie totale, c'est beaucoup plus que l'énergie de masse MC2 lorsque l'électron est relativiste. Et on a ce fameux rapport gamma. Et donc, on peut montrer que oméga va être égal à EB sur gamma M. Alors là, vous allez me dire, ah, si vraiment on va avoir une fréquence de rayonnement qui est la fréquence de rotation, ça va être de plus en plus petit. Et en fait, non. Alors pourquoi ? Alors déjà, dans ce transparent, je voulais comparer un petit peu les accélérateurs que l'on peut faire sur Terre avec ceux qu'on a dans l'espace. Ils sont vraiment beaucoup plus géants par rapport à ce qu'on peut faire. Mais pour vous donner des ordres de grandeur, ici, on a un amas de galaxies dont on va parler, donc en X, le bleu, la lumière bleue, et un G radio, qui est celui de Cygnus A, qui est très spectaculaire. On a un G et puis les lobes radio. Et on peut calculer quel est le rayon de giration des particules, c'est de l'ordre de 60 000 km, ce qui paraît beaucoup plus grand, mais quand même, quand on parle en parsec, puisque on sait que l'amas fait 1 mégaparsec, c'est du nanoparsec, c'est-à-dire 10⁻⁹ parsec. Vous voyez que c'est microscopique par rapport à la taille de l'amas. On va voir dans la suite que ce petit rayon de giration, justement, empêche les électrons de donner leur énergie par conduction. Et on a un phénomène, on va le voir, très utile. Il y a aussi des accélérateurs de niveau stellaire. On a une supernovae, la supernovae qui a explosé en l'an 1000 dans la nébuleuse du Crabe. Et ici, on voit en rayons X en bleu, l'émission en optique en rouge et en X. Et on voit qu'en effet, il y a des électrons qui tournent autour d'un champ magnétique. Enfin, Donc, pourquoi les électrons, lorsqu'ils sont relativistes, émettent de plus en plus à une énergie de plus en plus haute? Alors, tout cela vient de l'effet de beaming, qu'on appelle, c'est-à-dire l'émission d'un électron relativiste n'est plus du tout isotrope, comme on pouvait l'avoir avant, par exemple V très faible devant C, une émission cyclotron, un électron non relativiste. Il émet un petit peu dans toutes les directions, c'est un peu isotrope par rapport à son référentiel au repos. Ce qui est aussi la même chose ici, si on était dans le référentiel au repos, mais là, il faut distinguer le référentiel au repos de l'électron et puis celui de l'observateur. L'observateur, ce qu'il voit, c'est ça. Et pourquoi ? Simplement parce que la vitesse à laquelle se propage le rayonnement, C, c'est le même ordre de grandeur que la vitesse de l'électron, qui est C aussi, puisque l'électron est électron relativiste. D'où on a cet effet géométrique où toute émission est émise dans un petit cône d'angle θ, très petit, puisqu'il est en 1 sur gamma. Gamma peut être 10 puissance 4 dans les situations que l'on va regarder dans les amas de galaxies. Donc vous voyez que θ est très très petit, encore plus petit que ce qui est dans ce dessin-là. Et donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on regarde le rayonnement va être émis vers l'observateur comme des petits flashs, très très rapides. Et donc si vous faites la transformée du Fourier du rayonnement reçu, ça va être à une très haute fréquence. On peut montrer qu'on va recevoir des fréquences qui seront de l'ordre de delta t, qui c'est très très petit devant la période de rotation, contrairement au cyclotron où vous aviez une période qui était la fréquence de giration. Ici, on a quelque chose qui est très très petit, et donc on peut montrer que la fréquence reçue, donc en radioastronomie par exemple, sera en gamma 2 b sur t, et non pas, comme on pouvait le penser ici, en 10-3 Hz, mais là, ce sera avec des mégahertz et jusqu'à des gigahertz. Donc ici, on a déjà cette relation-là, grâce à cet effet de beaming, gamma 2, EB, alors B perpendiculaire, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de l'électron ici, donc on aura sans doute un angle sinus θ qui va arriver. Donc en gros, hein, c'est juste pour reformuler de façon différente la transformation du repère pour un référentiel d'électrons où l'émission est relativement isotrope dans ce référentiel, et puis lorsqu'on on passe dans le référentiel de l'observateur, comme la transformation est très très relativiste, la transformation de Lorentz avec ce facteur gamma, on a cet effet de beam, de lobe si vous voulez, avec un angle d'ouverture très petit. Et la polarisation qui en déduit est aussi très très forte, 70%. Alors 70%, on ne l'observe pas tout le temps. Pourquoi ? Parce que dans certains, lorsqu'on a une résolution spatiale qui est assez limitée, on va moyenner sur beaucoup de régions, des parsecs, des kiloparsecs, et le champ magnétique va être peut-être désordonné, on sera moins polarisé. Alors, cette émission synchrotron, donc, on a vu que la fréquence était proportionnelle à l'énergie gamma, et même gamma au carré, et au champ magnétique. Et puis, la puissance émise, alors on peut calculer, comme on l'avait fait tout à l'heure, pour l'effet relativiste, on a une certaine constante ici, et puis c'est gamma 2, B2. B perpendiculaire, mais enfin, bon, le sinus carré est après, c'est B2. B2, en fait, c'est l'énergie du champ magnétique. Localement, l'énergie d'un champ, c'est le champ B au carré. Donc on voit que c'est proportionnel. L'électron tire un peu son rayonnement de l'énergie qu'il y a emmagasinée dans le champ électromagnétique. Alors ici, on voit bien que plus un électron a beaucoup d'énergie, plus il rayonne en fait. Et même, ce n'est pas proportionnel. Ce qui fait que si on veut regarder la durée de vie d'un électron de l'énergie E égale gamma MC2, vous voyez que le temps, la durée de vie, ce sera l'énergie qu'il a, c'est-à-dire gamma MC2, sur l'énergie qu'il donne à chaque seconde et qui est en gamma 2. Donc la durée de vie, ce sera en 1 sur gamma. Donc on voit bien que les électrons les plus énergiques ont une durée de vie beaucoup plus petite. D'où le fait que tout ce qui émet à haute énergie va vieillir plus rapidement et on aura des émissions synchrotron dont la pente va varier beaucoup lorsque l'électron vieillit, enfin, perd son énergie. Par exemple, pour le crabe ici, on peut regarder les ordres de grandeur, on a une durée de 20 ans pour ces électrons. Alors, ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'on considère en général que les électrons. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la puissance est en 1 sur M2. Et pour les protons qui accompagnent les électrons, la masse est 2000 fois plus forte, donc l'énergie rayonnée par les protons est négligeable. Donc ici, on a 20 ans, vous voyez que la nébuleuse, on l'observe depuis plus de 20 ans, donc ce qui veut dire que vous avez certainement des chocs qui vont réaccélérer les électrons sans arrêt. Ce qui va être le cas aussi pour les amas. Alors pour les amas de galaxies, on a des durées de vie, si on a des électrons qui émettent en radioastronomie, donc 3 GHz, ça fait à peu près 10 cm de longueur d'onde. Le champ magnétique, on va voir comment on peut le mesurer, on a à peu près des durées de vie de 20 millions d'années, et c'est très court par rapport au temps de traversée d'un amas, donc on voit qu'il faut aussi des réaccélérations des électrons vu la faible durée de vie. Alors l'énergie aussi des électrons requises, on voit que pour rayonner, il nous faut connaître B, puisque la fréquence, c'est proportionnelle à B. Alors comment on va mesurer le champ magnétique? Il y a plusieurs, il y a au moins 3 méthodes. On peut supposer qu'il y a une équipartition entre l'énergie du champ magnétique, qui est en B2, l'énergie des particules, parce qu'elles s'échangent, en fait. Les particules donnent de l'énergie au champ et réciproquement. Donc on peut penser qu'à l'équilibre, il y aura équipartition. C'est un ordre de grandeur, c'est pas forcément le bon. On a aussi la rotation Faraday. Qu'est-ce que c'est que la rotation Faraday? C'est le plan de polarisation. On a vu que l'émission synchrotron était polarisée. Donc le plan de polarisation va tourner. Et ce qu'on appelle rotation majeure en anglais, mais donc l'angle de rotation, va être proportionnel au champ B, à la longueur d'onde du rayonnement au carré, et puis à la colonne densité, NE sur la ligne de visée, du nombre d'électrons, la densité d'électrons. Donc c'est la colonne densité d'électrons. Alors le fait que ce soit lambda 2 est très intéressant parce que ça permet, on va regarder le rayonnement et la polarisation à plusieurs longueurs d'onde. Et on verra qu'à chaque longueur d'onde, elle a tourné un certain angle, parce qu'on ne connaît pas l'orientation initiale. Mais là, avec plusieurs lambdas, on va savoir de combien on tourne, et avec des lambdas assez proches, pour qu'on n'ait pas tourné de 2 pi et qu'on ne sache pas exactement de combien on a tourné. Donc là, on voit bien la rotation du plan de, et on peut mesurer le champ B. On va voir aussi qu'on peut le mesurer avec la mission inverse Compton qu'on va décrire tout à l'heure. Donc finalement, quand on a ce champ B qui vaut de l'ordre de 5 microgauss en moyenne, ça peut être 10 microgauss, eh bien, on peut avoir l'énergie de l'électron nécessaire pour émettre un photon radio à 1,4 GHz, qui est la raie à 21 cm, 10 puissance 4, il faut. Et si on veut, on peut aussi, pour la fin de l'énergie, enfin la queue de la distribution des électrons, s'ils sont assez énergiques pour avoir gamma 10 puissance 8, ce qui est assez énorme, on peut avoir des rayonnements X. Alors quand on a un spectre d'un électron et la distribution en énergie d'électrons qui est une loi de puissance, on va voir qu'en effet ça va être le cas, on va décrire un petit peu les mécanismes d'accélération pour savoir comment va être accéléré l'électron, et bien on peut montrer que le spectre d'émission synchrotron qu'on va recevoir va être aussi une loi de puissance et on va pouvoir la calculer. Alors par exemple ici on a un spectre de l'émission synchrotron en fonction de nu, c'est la fameuse loi moins alpha que j'ai déjà décrite, et on veut essayer de le rapprocher du spectre en énergie de l'électron. Admettons qu'on ait accéléré nos électrons et que le nombre d'électrons en énergie E soit une fonction de loi de puissance avec une pente P. Et c'est en effet le cas. Alors on peut, avec les équations maintenant qu'on a établies, c'est-à-dire l'énergie de l'électron et puis la fréquence émise et la puissance émise, on peut prendre toutes ces équations l'une par rapport à l'autre, et on voit bien que le rayonnement émis est une fonction en loi de puissance de la fréquence et du champ B. Et si ça vaut alpha, puisqu'on observe alpha, on peut relier alpha à la loi de puissance de l'électron. Et c'est ça qu'on veut savoir. On observe le rayonnement synchrotron et on voudrait savoir comment sont accélérés les électrons, c'est-à-dire quelle est leur distribution en énergie. Alors vous voyez que si on a un pente de rayonnement synchrotron assez plat, ce qu'on avait dans le saucisson un petit peu au bord, à ce moment-là, ça veut dire que P égale 2,5. Et en effet, dans les mécanismes d'accélération, on prédit que P égale 2, donc c'est déjà pas très loin. Et puis, lorsque on a perdu beaucoup d'énergie, surtout pour les électrons de haute énergie, à ce moment-là, on va avoir une pente plus forte et on peut avoir jusqu'à P égale 6 lorsque la population d'énergie aura vieilli, la population d'électrons aura vieilli. Alors, pour l'instant, on s'est intéressé à cette loi de puissance du rayonnement synchrotron. Est-ce que ça monte infiniment? Non. Alors, d'abord, on aura certainement une coupure ici parce qu'on ne peut pas accélérer les électrons à des énergies invraisemblables. Donc, on aura une coupure à haute fréquence, et puis aussi à basse fréquence. Pourquoi? Parce que, alors pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, il faut aller au-delà du mètre. Quand on a mis des images en centimétrique, métrique, on était par là. Mais lorsqu'on va au-delà, on a une auto-absorption du rayonnement. C'est-à-dire que les électrons qui rayonnent à cette énergie-là ont une énergie, un gamma assez faible, donc une température équivalente assez faible, et à ce moment-là, ils absorbent le reste du rayonnement. Donc ça nous fait un retour ici. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un corps noir. On a un corps noir, on a des particules qui émettent, qui absorbent, etc. Et le pic est toujours la température moyenne des particules. Ici, on a un petit peu ceci, on a une température moyenne et à basse fréquence, les électrons qui émettent avec des températures de brillance plus fortes ont un rayonnement qui est absorbé par d'autres électrons qui ont une température équivalente plus faible, TE inférieur à TB, donc on a un retour à basse fréquence. Donc on ne s'attend pas à une loi de puissance qui monte jusqu'à l'infini. Alors pour le rayonnement Compton inverse, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de l'effet Sunyaev-Zeldovich, si vous vous rappelez. Il s'agissait à l'époque de la rencontre entre un photon du fond cosmologique, qui est très faible, à une fréquence très faible, 3 degrés K donc, en millimétrique, donc un photon d'énergie faible qui va être recevoir l'énergie de l'électron. Alors c'était l'électron thermique, donc celui qui avait 2, 3, 4 kiloélectronvolts. Et on avait vu que ça accélérait un tout petit peu le photon qui devenait, il était millimétrique toujours, mais il y avait un tout petit trou à 3K et il devenait un tout petit peu plus énergique que 3K, mais très peu. Alors ici, c'est le même principe, mais l'électron, cette fois-ci, est relativiste, donc il va donner beaucoup plus d'énergie. Et donc, le photon qui va ressortir ne va pas être millimétrique, mais va être en rayons X. Il va pouvoir être juste aux rayons X. On peut montrer que, dans cette collision, le rapport entre la fréquence du photon final par rapport au photon initial peut être égal au gamma de l'électron, donc gamma au carré. Donc si on part par exemple de 3^-4 électronvolts, ça c'est le photon du fond cosmologique à 3 degrés K, on peut aller jusqu'à 8 K électronvolts, 3^-7, qui est la fréquence des X de cette énergie-là. Donc on peut avoir, on avait vu d'ailleurs dans l'exposé précédent, que l'émission principale du gaz chaud en X était du free-free, du thermique, du Bremsstrahlung, si vous voulez. Et puis il y avait aussi un petit peu de inverse Compton qui était dû à ci. Alors on a évidemment une fréquence maximum, puisque les électrons ne sont pas une énergie énorme, il ne va pas jusqu'à l'infini, on a une coupure, et puis on a ce genre de spectre. Donc cette énergie inverse Compton, on peut montrer que la puissance, elle est aussi égale, alors évidemment, la section efficace sigma T Thomson, qui est la probabilité de collision entre le photon et l'électron, et puis elle est aussi proportionnelle à gamma 2, gamma étant l'énergie de l'électron, et puis l'énergie du photon. Du photon du fond cosmologique, qui est partout, on baigne dans ce photon, dans ce vestige du Big Bang. Et vous voyez que quand on le compare à l'émission synchrotron, on a montré que c'était gamma 2 UB, c'est tout à fait comparable. Et certains ont même dit que c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que l'émission synchrotron, ça peut être assimilé, considéré, à une émission inverse Compton, avec les photons étant ceux du champ électromagnétique, puisque en mécanique quantique, vous savez que le champ électromagnétique, vous avez des photons. Vous avez une onde électromagnétique ou des photons, donc c'est exactement la même chose. Et si on a exactement les mêmes électrons qui agissent dans les deux cas, on peut faire le rapport et on aura le champ magnétique B, puisqu'on connaît la densité de photons du fond cosmologique, est bien connue, c'est par Planck, etc. Donc on peut aussi avoir le champ magnétique comme ça. Par exemple, ici vous avez en radio donc l'émission synchrotron de ces mêmes électrons et certains émettent en rayons X dans l'émission inverse Compton. Alors le champ B peut être aussi, on l'a vu, mesuré par cette mesure de rotation, la rotation Faraday. Ici vous avez un très bel exemple d'un jet radio émis par la galaxie centrale de l'amas de Hydra, Hydra A. Et en rouge-orange, vous avez toutes les rotations positives. En bleu, vous avez les rotations négatives. Et ça se distingue vraiment entre les deux jets. Ça veut dire que le champ B a changé de signe d'un côté à l'autre du G. Ça vous donne déjà une importance. Et puis, on voit comment il varie. Il est assez cohérent, sauf peut-être ici, où il y a des accidents. Il est assez cohérent au long du G, qui fait quand même 100 ou 200 kiloparsec. Alors, cette origine du champ B, elle est multiple. On ne sait pas exactement à quoi elle est due, mais c'est en outre, dans le choc, on va pouvoir amplifier le champ B. On sait que dans tous les objets très compacts, le champ est amplifié parce que lorsque le champ B est piégé dans la matière ionisée dans le plasma, le flux B est conservé, donc on a BS conservé, donc à chaque fois qu'on comprime pour former par exemple des étoiles, des trous noirs, etc., on va avoir des champs énormes, on va avoir une petite idée des champs qu'on peut avoir, et puis on peut aussi, par fusion d'amas, amplifier. Alors voici un petit peu les ordres de grandeur de champs pour vous donner une idée. Ce qu'il y a dans le milieu interstellaire, c'est à peu près un micro-Gauss. Le Gauss, c'est 10-4 Tesla. Dans les centres des amas, on a à peu près 5 à 10 micro-Gauss, donc c'est déjà plus fort que le champ dans le milieu interstellaire. Et puis, la nébuleuse du crabe, pas exactement l'étoile à neutrons, qui est beaucoup plus grande. Ici, on voit l'étoile à neutrons, c'est les plus forts champs possibles. Mais dans la nébuleuse, on a quelque chose qui est 10-3 Gauss. Le champ terrestre, ce qu'on a dans cette pièce, c'est 0,3. Autour des trous noirs, mais dans les régions de raies larges, c'est-à-dire dans les disques d'accrétion, on a 10 Gauss. Mais évidemment, près de l'horizon, on aura beaucoup plus. Dans les taches solaires, on a bien plus aussi. Ce qu'on sait faire en labo, mais au grand maximum, c'est 10 puissance 6. Et on voit bien que les étoiles de neutrons, les objets très condensés, font beaucoup plus que ce qu'on peut faire en laboratoire. Alors la troisième petite méthode pour avoir la valeur du champ B, c'est l'équipartition. Alors vous voyez un petit peu le champ B, l'énergie du champ B qui va en B2, ici, en fonction de B. L'énergie des particules pour une émission synchrotron donnée va comme B-3,5. Donc vous voyez bien que si on échange entre les particules et le champ B, il va y avoir un moment où on a une énergie optimum ici. Et ça donne une ordre de grandeur du champ B qu'il peut y avoir dans les amas. C'est presque bon, mais un facteur, là, le champ qu'on déduit ici, c'est 0,5, alors qu'on a plutôt 10 fois plus. Donc on n'a pas tout à fait le bon ordre de grandeur, mais c'est quand même une bonne idée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a appris en regardant un petit peu les amas de galaxies? Vous voyez ici, on a un amas assez complexe. L'émission X est ici. Et en rose, on a l'émission radio. Alors ici, on a un jet radio qui est beaucoup plus grand que d'habitude. D'habitude, on a une galaxie centrale, deux jets bien rectilignes, et puis ici, ça va jusqu'à 1 mégaparsec. Alors sans doute, l'amas est peut-être l'origine de la réaccélération. Vous avez des petits AGN alors là, qui sont normaux, et puis vous avez ce choc qui a une drôle de forme, certainement parce que vous avez à l'intérieur un jet radio. Ici, on a une galaxie qui émet des jets. Et on pense qu'en effet, à chaque fois, on a cette observation, que dans le choc, il y a aussi un noyau actif qui injecte des électrons relativistes dans le choc. En fait, lorsque vous avez des collisions d'amas, vous devriez peut-être avoir des chocs à chaque fois, mais vous n'avez pas de reliques radio à chaque fois. Pourquoi ? Parce que vous n'avez peut-être pas assez de noyaux actifs qui injectent des électrons relativistes. Ces électrons relativistes qui ne sont pas du tout à l'équilibre thermique et qui sont nécessaires pour faire l'émission synchrotron dans les chocs. Ici, vous avez aussi en bleu l'émission X. Vous voyez qu'au bord, on a un choc qui n'est pas régulier cette fois-ci, mais on comprend pourquoi quand on fait un zoom sur cette émission radio en rose, on voit qu'il s'agit aussi d'un jet à partir d'une galaxie qui a été même tordu, parce que normalement le jet est tout à fait droit, mais il a été tordu parce que la galaxie se déplace dans le gaz chaud qui fait le rôle d'un vent. Donc en général, on a des jets qui sont incurvés. Et donc, ça, certainement, c'est ce jet-là qui injecte les électrons relativistes dans le choc qui permet de regarder cette émission de reliques radio. Ici, vous en avez un exemple de chaque côté. Ça, c'est un peu plus complexe. En général, dans le choc, on en a d'un côté et puis peut-être dans l'autre si on a un retour. Mais la durée de vie de ce choc est assez faible, 100 millions d'années peut-être, 200 millions d'années, pas plus. Et donc le temps de la fusion du choc, c'est plutôt le milliard d'années. Donc on ne s'attend pas à en trouver deux, aussi brillants de chaque côté. Pourquoi ? Alors, sans doute, il y a peut-être deux collisions ici. Alors pourquoi ça a cette forme aussi bizarre ? C'est certainement parce qu'il y a un jet radio ici. Donc le scénario dans ce cas-là était de penser qu'un des chocs a été dû à une collision, et dans l'autre, une deuxième collision. Donc, ce n'est pas, on ne s'attend pas à trouver des chocs de chaque côté, sauf s'il y a plusieurs collisions. Et ici, cette forme-là est certainement due à un jet radio. Alors, la fameuse brosse à dents, là, elle est vraiment un peu curieuse, celle-ci, parce qu'on s'attend à trouver des chocs un peu incurvés, alors le choc est très droit. Et en plus, il va beaucoup plus loin que les rayons X, qui sont les deux amas qui rentrent en collision ici, qui sont matérialisés par les rayons X. Il semble que le choc aille beaucoup plus loin. Alors pourquoi ? Ici, on voit la même chose que pour le saucisson. On voit en couleur l'index alpha de l'émission synchrotron, et on voit bien que l'index en bleu ici est égal à 2,5, donc très pentu. Et le vert le plus plat, c'est les électrons les plus jeunes. Donc on a donc du côté convexe, donc le choc est en train de se propager ici, et les électrons les plus vieux sont en arrière. Alors on peut essayer de savoir, avec le mécanisme qu'on va décrire tout à l'heure, diffusion de choc, accélération, c'est-à-dire on va voir comment les électrons dans le choc peuvent être accélérés, et on prévoit que la vitesse du choc était de 2,8 en Mach, ce qui n'est pas tout à fait le même nombre de Mach que l'on trouve si on regarde la température du choc en rayons X, donc il y a peut-être encore des petits problèmes. Et pourquoi le choc est si droit ? Donc il a fallu supposer qu'il y a eu trois amas. Il y en a un qui est assez petit, donc il n'y a pas autant de rayons X, c'est pour ça qu'on ne voit pas le rayon X autour de cet amas-là. Mais s'il y a deux collisions, il y a deux chocs, et les deux chocs mis bout à bout peuvent faire quelque chose de droit. En fait, c'est peut-être un petit peu ad hoc, mais c'est la seule configuration qu'on a trouvée dans les simulations pour expliquer ce choc très droit, et surtout un choc assez épais lorsqu'on a les collisions des deux principaux amas, et puis un troisième par ici. Alors, il y en a d'autres qui sont du même type et qui nous renseignent beaucoup sur l'origine de l'injection des électrons. Vous voyez qu'ici, on a donc en bleu les rayons X, et ici, on a en vert l'émission radio. On a un petit jet radio qui sont incurvés, tout à fait typique d'un jet radio qui est poussé par le vent. Donc, au début, les jets radio sont linéaires, et puis ensuite, la galaxie se balade dans le vent chaud ici et sont incurvés. C'est ce qu'on appelle un jet avec un angle assez fort. Et lorsqu'on regarde à plus basse fréquence, donc on a plus de sensibilité, on voit qu'en effet, cette source radio-là, elle correspond à ça, avec les deux jets qui sont du même côté, qui ont été repliés du même côté. Et il y a peut-être un jet qui se retrouve ici, donc un des chocs, et qui alimente ce choc en électrons relativistes, et l'autre qui va alimenter jusque-là. Donc vous voyez que ces petits jets qui, normalement, lorsqu'on n'a pas de choc pour accélérer les électrons, évidemment, les électrons, ils s'en vont jusqu'à 1 mégaparsec, puisqu'ils sont relativistes, ça peut être en 100 millions d'années, mais on ne les voit plus parce qu'ils ont perdu leur énergie. Et là, il suffit qu'ils rencontrent un choc pour qu'ils retrouvent toute leur énergie, qu'ils soient accélérés dans le choc. Donc on retrouve ces reliques, en fait. C'est bien des reliques de jets radio qui sont dus à des noyaux actifs. Ici, on l'appelle phénix, donc, puisqu'il renaît de ses cendres, en quelque sorte. Donc, c'est un jet radio qui a été ce qu'on appelle, avec un grand angle, dû au vent, dû à son mouvement dans l'amas. Et ici, vous voyez en bleu les galaxies, donc les deux amas. Et en contour, c'est le rayon X, qui, le gaz chaud s'est mis en commun entre les deux amas. Et donc, vous voyez qu'on a pu accélérer dans le choc beaucoup d'électrons qui viennent du jet radio. Alors, il y en a qui sont vraiment très spectaculaires. Vous avez ce fameux 2256. Vous avez en rouge ici les rayons X de Rosat, l'ancien satellite qui était beaucoup moins de résolution spatiale. Chandra en blanc, et ça, c'est aussi les X, mais avec beaucoup plus de résolution, moins de sensibilité pour le bord. Et puis en gris, là, blanc-gris, vous avez les reliques radio. À basse fréquence, vous avez un télescope qui s'appelle LOFAR, Low Frequency Array, qui est à la fois en Hollande, surtout en Hollande, et puis il y en a des stations en toute l'Europe, donc une à Nancy notamment, et le VLA qui est aux États-Unis et qui est plutôt à haute fréquence, c'est-à-dire centimétrique, et ici c'est métrique. Donc à basse fréquence, vous voyez un halo qui, à tout l'espace, est à la même échelle, donc à peu près à la même taille que le rayon X. Et puis, les chocs, vous voyez qu'on a des reliques comme ça. Ici, c'est une à plus haute échelle, une résolution à 7 arcs secondes. Et ce qui est spectaculaire, c'est cette longue traînée qui semble peut-être être un jet radio, mais quand on regarde à plus petite échelle, on n'a pas l'impression que les deux jets se séparent en deux. Ici, on a des noyaux actifs. Ici, on a un noyau actif avec deux jets, mais qui se replient sur eux-mêmes, donc là, c'est classique. Mais ce long filament là est assez curieux. Alors ici, vous avez l'index spectral. On vérifie à nouveau que celui-ci est très jeune. Ce qui est rouge, c'est les alphas très pentus. et puis la polarisation. Donc, dans ce jet, on n'a pas de polarisation, curieusement. On a beaucoup de polarisation pour les reliques, donc ce qui est accéléré dans les chocs. Et la rotation Faraday nous donne le champ magnétique. Donc, ce à plus grande, vous voyez un petit peu de détails là, on a été quand même surpris de voir qu'il n'y avait pas de galaxie au bout et qu'on a beau faire une longue traînée et une réaccélération sans doute des électrons sur plus d'un mégaparsec, on ne voit toujours pas 2G. Alors qu'ici, vous voyez 2G, ici, vous en voyez. Donc, il est possible que le deuxième G ait disparu dans l'interaction. Quand on voit la rotation Faraday, elle est assez irrégulière. On passe du positif au négatif régulièrement. Et on ne voit pas du tout, par exemple, ici, vous avez 2G qui sont bien repliés. Donc, on arrive à les séparer. Ici, on a 2G qui se séparent, mais là, on n'est pas arrivé à le séparer, donc là, il y a encore un mystère, soit le premier G a disparu, soit c'est... il ne s'agit même pas d'un G radio, ce qui serait un peu bizarre. Alors, d'autres exemples, par exemple, plusieurs amas qui sont dans une chaîne, là, on a beaucoup de reliques radio, de chocs qui sont réaccélérés. Ici, on a un choc au bord de cette structure-là, dont la structure en index radio est très régulière aussi, donc on voit quel est le côté jeune et le côté plus âgé. Et ce qu'on voit aussi, c'est la température en rayons X du gaz. Donc on voit que le choc correspond vraiment à un choc de température. Alors pour expliquer toute cette structure très complexe, il faut supposer qu'il y a plusieurs structures qui rentrent en collision et donc l'émission radio-synchrotron de la relique est au bord comme il se doit. D'autres exemples encore. Ici, il est très, très caractéristique. En fait, c'est encore un jet radio qui donne ses électrons au choc et qui est réaccéléré ici. On a ici un radio halo qui a la même structure que le rayon X. Et donc, ça, c'est des structures qui peuvent s'expliquer très bien avec l'accélération des jets radio et des reliques. Donc maintenant, on a vu plusieurs exemples. On va essayer de comprendre quel est le mécanisme d'accélération de ces électrons dans les chocs. Ici, on voit bien qu'il s'agit de deux chocs. Ça, c'est un cas particulier où les deux amas ont une collision presque frontale. Donc, on a les deux chocs qui sont exactement dans l'axe d'arrivée des collisions. Mais on peut faire le rapprochement. On sait que les chocs accélèrent les particules. On sait dans les supernovas que tous les rayons cosmiques, tous ceux qui sont dans la galaxie, et même au-delà de la galaxie, dans le halo de notre Voie lactée, tous les rayons cosmiques sont accélérés dans les supernovae, qui ont un choc énorme. Donc on va s'inspirer de cela. Et quand on regarde le nombre de Mach pour une supernovae, évidemment, c'est à beaucoup plus petite échelle, puisqu'on a ici des échelles du parsec. On a un reste de supernovae, comme par exemple le crabe ici. Et on a un choc qui vient de l'enveloppe de la supernovae qui a rencontré le milieu interstellaire. Et ce choc a un nombre de Mach de 10 puissance 3. Donc c'est énorme. Et évidemment, on va accélérer les rayons cosmiques beaucoup plus efficacement. Ici, on a un choc qui est la relique radio. Le nombre de Mach, il est toujours de l'ordre de 1, 2, 3, jusqu'à 5, pas plus. Mais c'est quand même sur un mégaparsec et non pas un parsec. Donc on a une énergie beaucoup plus grande, bien que l'accélération soit moins efficace. Alors, à quoi est due cette accélération? Eh bien, simplement le fait qu'on prend de l'énergie sur le choc lorsque les particules traversent plusieurs fois le choc. Alors, pourquoi elles reviennent sur le choc? Eh bien, parce qu'on a ce qu'on appelle un miroir magnétique, c'est quelque chose de bien connu. Lorsque vous avez des inhomogénéités de champ magnétique, vous avez des gradients de champ. Ici, on a quelques lignes de champ, par exemple. Et lorsque le champ devient plus fort à un moment donné, vous pouvez montrer, c'est l'équation électromagnétisme, toute simple, que lorsque dans la direction de l'hélice, la vitesse est ralentie dans cette direction jusqu'à même s'inverser. Donc vous voyez que la particule va être réfléchie, c'est un peu la même chose que pour une diffraction et une réflexion totale, si vous voulez. Donc on a une réflexion totale lorsqu'il y a une inhomogénéité de champ B et un gradient qui devient de plus en plus fort, donc les lignes de champ se resserrent et la particule est réfléchie. Donc on appelle ça miroir magnétique. Et donc dans ces milieux-là, il y a des tas de petites irrégularités du champ B qui font des resserrements de lignes de champ et qui réfléchissent les particules. Donc les particules sont sans cesse réfléchies. Alors il y en a bien quelques-unes qui s'en vont, mais il y a un grand nombre qui va être réfléchi et qui va traverser le choc plusieurs fois, des milliers de fois. Et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle mécanisme de Fermi aussi, puisque c'est Fermi, Enrico Fermi, le physicien italien, qui l'avait déjà proposé en première fois en 1949, pour justement essayer de comprendre pourquoi les rayons cosmiques sont accélérés dans la galaxie, d'où ils viennent. On les reçoit, bon, on en reçoit quelques-uns du Soleil, mais on en reçoit beaucoup plus encore, et ils baignent tout le halo de la galaxie, et en fait, ils sont accélérés dans les supernovae. Donc Fermi avait montré qu'il y avait deux systèmes. Un où à chaque traversée du choc, on gagne la différence de vitesse. Alors ici, on a un choc qui est schématiquement représenté. On a un saut de densité dans ce choc qui est de l'ordre de 4 au maximum, avec par conservation de la masse une vitesse qui est 4 fois moins grande, puisqu'il y a 4 fois plus de densité ici. Et puis la température qui, elle, peut monter. Lorsqu'on a passé le choc, on a chauffé les particules, elle peut monter et jusqu'à des valeurs qui peuvent être le nombre de Mach au carré. Donc c'est une façon de mesurer le nombre de Mach. On regarde par exemple en rayons X dans un amas, autour d'un choc. On connaît la température des rayons X en regardant la fréquence, le spectre émis. Et donc on a le nombre de Mach ici. Et donc cette différence de vitesse, à chaque fois la particule va absorber, disons, cette énergie qu'elle a de façon frontale. On peut la voir à l'ordre 1, c'est l'ordre Fermi 1. Ici, on n'a pas un choc, mais des tas de petits chocs, des tas de petits nuages magnétisés. À ce moment-là, c'est beaucoup plus aléatoire. Et on peut montrer que c'est de l'ordre 2, donc l'état de Fermi 2. On l'appelle aussi ce mécanisme DSA, donc Diffuse Shock Acceleration. Alors ici, c'est représenté un petit peu ce mécanisme, avec un choc, donc une matière qui arrive avec une grande vitesse, qui est arrêtée par ce choc à une vitesse U2. On voit bien que la masse va s'accumuler ici, avoir une densité qui, au plus, va être un facteur 4 en aval. Et puis, si on regarde, il y a des inhomogénéités de B, et tous ces petits champs B vont être un miroir magnétique. On va avoir des particules. Alors, la particule qui est au repos dans ce milieu-là va voir arriver le choc avec U2 moins U1. Si elle est au repos ici, elle va regarder le choc avec U2 moins U1, à chaque fois de face. Hein. Et c'est là qu'on gagne, on prend de l'énergie au choc. Et c'est le choc qui accélère les particules. Alors, on peut prédire que les électrons vont avoir ce spectre d'énergie, c'est-à-dire en E moins 2, par ce mécanisme-là. La loi de puissance, E moins 2, on a vu qu'on avait presque ça. On commençait déjà à perdre de l'énergie pour les hautes énergies des électrons, donc on arrivait à 2,5 au plus. Alors il y a quand même un problème pour ce mécanisme, c'est que les protons aussi devraient être accélérés dans les chocs. On a vu que leur énergie, l'émission synchrotron était négligeable, mais il y a quand même une interaction de ces protons non thermiques, qui sont accélérés de façon relativiste, avec le gaz thermique de rayon chaud X ici, et ça devrait donner des rayons gamma. Donc ça a été calculé par Vaca et Bruggen par exemple, et ils ont remarqué qu'on aurait dû détecter ces rayons gamma, par exemple le satellite Fermi, qui est bien nommé ici, qui détecte les rayons gamma, et ils ont calculé les rayons gamma qu'on devait recevoir. Alors vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des limites supérieures en gris là, qui sont celles qu'on a observées. Donc on a observé beaucoup moins de rayons gamma que cela. On n'a rien détecté en fait, donc on n'a que des limites supérieures. Or, on aurait dû recevoir des gamma bien plus que la limite supérieure. Donc il y a un petit problème. Ou alors, il faut penser que seuls les électrons sont accélérés par les protons, ce qui est un peu bizarre. Mais on n'a pas tout résolu dans ce mécanisme d'accélération. On connaît un petit peu le mécanisme, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc qu'est-ce qu'on a appris quand même et qu'est-ce qu'on peut retirer des observations des amas? Alors, si on voit un amas, deux amas en collision hors axe, puisque ici on voit qu'il y a un aspect comète ici, mais dans ce sens-là, il y a une dynamique perturbée, il y a un choc qui est matérialisé ici par l'émission synchrotron radio. On a la taille 1,5 mégaparsec, et on a mesuré la différence de température en X, et on a trouvé le nombre de Mach ici, qui correspond à peu près aux simulations qu'on a fait de ce genre de collision non frontale. Ici, on voit la simulation. Et puis, il nous faut quelque chose pour un injecteur d'électrons relativistes. Et on l'a trouvé. Ici, on a un petit jet radio qui est dû à un trou noir supermassif dans cette galaxie qui injecte dans le choc, c'est-à-dire dans l'accélérateur, en quelque sorte. Il faut injecter les électrons relativistes et ils sont là dus à cette source radio. dans l'amas El Gordo. Aussi, on a pu mesurer, vous voyez ici qu'on a un amas qui n'est pas à l'équilibre, qui est une collision d'amas, on a un radiohalo. On a pu mesurer la température en X entre les deux, qui correspond à l'amas, et on voit bien que la relique radio, ici en vert, elle est vraiment à l'endroit où on s'attend de trouver le choc. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on attend. Ici, le choc avec l'intensité de rayons X. De même pour le boulette, hein, tous ces amas qui rentrent en collision, c'est exactement, on en a parlé beaucoup du boulette pour la matière noire, etc. Mais ici, on voit qu'on a une émission X qui est relativement forte ici. Simplement, lorsque le X émet beaucoup, c'est du gaz plus froid parce qu'il se refroidit. Et l'onde de choc, en fait, elle est ici. L'onde de choc, elle est en bleu. Et on a un front froid en arrière, on va décrire ce qu'est le front froid. Ici, on voit un petit peu l'onde de choc et le front froid ici. Et dans ce boulette, on voit qu'il y a en effet une relique radio au bord. On a un AGN qui injecte les électrons et on a un choc qui fait sur 1 mégaparsec. Ici, en vert, on le voit bien. Ici, on a le boulette qui est reconnaissable. On a les deux amas du boulette, ici en observation optique, donc les galaxies. Et puis, on voit bien qu'en radio, on a bien ces reliques et c'est exactement à l'endroit où on s'attend de trouver le choc. Donc, on a une confirmation des modèles et aussi pour le radiohalo au centre. Alors, on pense que le radiohalo n'est pas accéléré par les chocs, mais accéléré par le champ magnétique et les électrons relativistes par une turbulence, en fait. Une turbulence, à quoi elle est due? Elle est due au fait qu'on a beaucoup d'énergie dans la collision et que l'énergie qui est dans les chocs au bord de l'amas, elle va ensuite cascader dans tous des tas de petites turbulences au centre. Donc on a des chats de petites inhomogénéité de B, donc c'est un peu plus aléatoire, c'est un peu plus turbulent. Et donc on a une émission diffuse et qui n'est pas très polarisée parce que justement le champ n'a pas d'orientation bien précise. Mais on peut prédire que la dispersion de vitesse donc, qui est due à la turbulence est proportionnelle à l'émission radio et c'est bien ce qu'on voit. Donc on a bien une confirmation de modèle. Alors maintenant, je vais parler de front froid qu'on observe aussi, qui est différent des chocs. Le choc, on a vraiment une discontinuité de pression et un effet de transport autour du choc. Pour les fronts froids, on a une densité qui est discontinue. Alors c'est un petit peu ça, la densité d'un côté tombe par rapport à la densité à droite. Par contre, la température compense. On a une température, là, lorsque le gaz est très dense, ici, vous voyez l'émission X, donc c'est proportionnel à la densité. Et puis ici, vous avez la température X, vous voyez que le gaz dense est plus froid. Donc la pression, le produit densité-température, la pression est la même. Donc on a pas de choc dans la pression, donc les vitesses vont être tout à fait continues. Donc ce front froid, il arrive lorsque, par exemple, au centre, vous avez dans ces amas qui sont presque à l'équilibre, vous avez un flot de refroidissement. Vous avez un gaz qui se refroidit beaucoup au centre, et donc vous avez un front froid, et tout d'un coup, vous avez une petite collision qui va faire bouger la galaxie centrale, et on a ce qu'on appelle en anglais sloshing, c'est-à-dire un flottement, un balancement du gaz, qui peut être représenté aussi par ce centre de l'amas, où si on le fait bouger par une petite collision, une fusion avec un petit amas, un petit groupe, à ce moment-là, vous voyez que la pression dynamique sur la quantité de gaz qui est extérieure est plus forte que l'intérieur, et vous allez avoir un déplacement différentiel, et donc ces espèces de gaz froid qui va se balader dans le gaz chaud, et donc vous aurez un front froid à la frontière. C'est exactement ce qu'on voit ici. La galaxie est en train de bouger, et quand on regarde la température en X, elle est plus froide ici, et on a un gaz X qui émet. Alors, on a fait ici un traitement où on a un filtre passe haut pour mieux voir la spirale, mais c'est un petit peu ce à quoi on s'attend. Alors, cette observation de front froid a permis de voir que les électrons ne conduisaient pas l'énergie. La conduction est beaucoup plus faible que ce à quoi on pensait, et c'est certainement dû au fait que le rayon de giration dans le champ B est très très petit, comme on le disait au début de cet exposé, c'est des nanoparsecs par rapport au libre parcours moyen des électrons qui est 1 kiloparsec. Donc au lieu de conduire son énergie sur 1 kiloparsec, elle va le conduire sur des nanoparsecs, donc on n'a pas de conduction du tout. Donc voici un petit peu ce à quoi on s'attend, un choc ici et un front froid derrière. C'est exactement ce qu'on a dans le boulette et puis dans d'autres exemples d'amas. Et les simulations montrent aussi à la fois le choc et le front froid derrière. Donc on a bien exactement ce que l'on voit dans les amas. Alors ici, c'est une collision d'amas avec un choc par ici. Et on peut en déduire le nombre de Mach avec les rapports de pression qu'il y a de chaque côté. Alors ici, on a aussi un double choc. Vous voyez le traitement de l'image pour mieux voir les chocs qui sont vraiment relativement très fins. Et ce qu'on voit sur les fronts froids, alors voilà, justement, dans Virgo, j'en ai pas parlé beaucoup, puisqu'il n'y a pas vraiment de grands chocs, mais il y a un front froid ici, qui est spectaculaire dans rayons X, et on voit en effet que la température et l'abondance, on va le voir ici, la température en rayons X, on a vraiment une discontinuité dans ce front froid, et aussi une abondance, c'est-à-dire que les gaz ne se sont pas mélangés. On a le gaz froid qui a beaucoup plus de fer. Le fer, il vient des supernovae des galaxies au centre, donc il est plus fort au centre. Et on voit que le mélange ne se fait pas. Alors, si le mélange ne se fait pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'instabilité à la discontinuité entre le front froid et le front chaud. Vous voyez que si on n'avait pas de viscosité du tout, on aurait ces instabilités de Rayleigh-Taylor, là. Ça, c'est une simulation sans viscosité et sans chambé. Par contre, si on met la viscosité qu'il faut, on va pouvoir éliminer complètement ces instabilités. Donc le fait d'observer ces fronts froids de ce type-là nous permet de déduire quelle est la physique du gaz derrière, sa viscosité, le chambé, etc. Alors voici des simulations, vous voyez, avec beaucoup d'instabilité ou sans, selon la viscosité que l'on met. Et on s'aperçoit que le chambé, alors ici on a des lignes de champ, sont très étirées lorsqu'il y a un choc ou un front froid. Et donc on augmente le chambé dans ces discontinuités. Et c'est ce qu'on observe aussi par la rotation de Faraday, par exemple. Alors, les simulations sont très spectaculaires. On voit cette espèce de vague qui est comme un tsunami qui représente le front froid, hein, dans ce flottement, ce balancement lorsque la galaxie centrale bouge. Et c'est ce qu'on voit, en effet, quand on regarde les observations. Alors, ici, vous avez l'observation de Perseus, qui est un amas bien connu, où on a un AGN au centre qui fait des cavités, on a deux cavités, on en a parlé lorsqu'on a parlé de flot de refroidissement. Et puis, quand on regarde les rayons X à grande échelle, on voit cette structure spirale. Sans doute, l'amas de Persée n'est pas complètement à l'équilibre, il a reçu la collision d'un petit groupe, un petit amas, et donc on a ce front froid qui se balade dans le front chaud. Ici, l'amas du Centaure, on le voit bien, il y a une belle spirale. Quand on regarde le filtre passe haut, on voit bien cette spirale-là, et ça ressemble tout à fait à ce qui est prévu. Hein, si je mets ici, là, on voit bien que c'est exactement ce qui se produit. Donc, en conclusion, on commence à comprendre bien ce qui se passe, on commence à comprendre un petit peu le mécanisme d'accélération. On a des reliques radio de ce type-là, très, très spectaculaires, très grandes, de 1 ou 2 mégaparsecs, qui nous renseignent sur l'énergie des électrons, le champ magnétique. Les radioalos qui sont au centre nous renseignent sur la turbulence au centre due à la collision des amas. Et ces chocs et fronts froids qu'on observe régulièrement maintenant dans les amas permettent de mesurer tout le champ magnétique, la physique du gaz, les conductions, les instabilités. Et ces émissions-là nous permettent aussi d'avoir de comprendre un petit peu l'énergie des photons et des électrons. Donc, je vous remercie.